Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fans of Africa, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Ich bin Sylvain Moos, am Mikrofon, viel Vergnügen auf Radio Kanal K. Bonsoir Abidjan, bonsoir Ouaga, Accra, Bamako, Lomé, amis panafricains, d'ici d'ailleurs, merci de vous avoir nombreux à l'écoute de Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Kanal K. Merci également à nos radios partenaires Lavra, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne et Légende FM à Lomé au Togo. Dans la première partie de notre édition de ce soir, nous aborderons les sujets de la crise ivoirienne et notamment le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo à la haie cette semaine. Maître François Epouma et Alain Jules seront dans quelques instants nos invités. Merci de votre fidélité sur Radio Kanal K dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, Michel Pouléo, Josué Maolier, Esteban Gagnon, Romain Koudjodi, Lucien Houkanli, Fabi Kwasi, depuis Lomé, constituent l'équipe de production. Fenêtre sur l'Afrique est présentée et réalisée par Sylvain Amos. Eh bien, avant d'accueillir nos invités, nous vous proposons une réflexion sur la crise ivoirienne conçue par notre ami panafricain Alain Jules, journaliste blogueur. Le 15 février dernier, la Côte d'Ivoire a confirmé son adhésion au statut de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale CPI, devenant ainsi le 122e État parti à ce statut. Or, il a envoyé son ancien président Laurent Koudjou Gbagbo dans les geôles de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, pour crimes contre l'humanité, avant même d'avoir ratifié ce traité. C'est faisable. Mais comme c'est bizarre, il fallait s'interroger. Dans la foulée, vendredi 15 février, toujours, la manifestation pro-Gbagbo dite à haut risque prévue pour le samedi 16 février avait été interdite avant d'être dispersée à coups de gaz lacrymogène. Depuis quelques jours, se déroule à La Haye l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges contre l'ex-président ivoirien Laurent Koudjou Gbagbo. Le premier jour, l'ex-président est apparu serein, respirant la grande forme, un look à la Gandhi avec ses lunettes fashion. Toujours vêtu d'un costume sombre, sobre aussi et de très bonne coupe, offert semble-t-il par le goléador camerounais Samuel Tofis, l'homme étonne et détonne. Un démenti formel face à ses détracteurs qui disaient de lui qu'il était un homme fini, affaibli et malade. Son avocat, Maître Emmanuel Altit, avait tenté de démontrer les accusations, arguant que le dossier était vide. Co-accusé donc? Et comment se fait-il qu'il soit le seul à comparaître à La Haye? Mystère et boule de gomme. À La Haye, au deuxième jour de l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges contre Laurent Gbagbo, on a vu la représentante des victimes vaciller, trébucher et perdre son latin après avoir été prise en flagrant délit de falsification de l'histoire. La Côte d'Ivoire n'a pas vécu toutes ces horreurs-là. En effet, l'accusation de co-auteur indirect de viol devait être valable à ceux qui ont effectivement violé. Mais au-delà de tout cela, c'est tout d'abord l'Afrique qui est humiliée. Non, il ne s'agit pas de demander que la justice ne se passe pas. Néanmoins, le président Laurent Gbagbo est toujours présumé innocent. En revanche, pourquoi ne pas le juger en Afrique, chez lui en Côte d'Ivoire? Comment peut-on accepter une telle déportation qui plus est d'un ancien président? Mais où sont donc ceux qui sont derrière la rébellion? Ceux qui ont assassiné à Dioukoué et ailleurs? Laurent Gbagbo, mis au banc de la société, avait et pouvait faire du mal aux uns et aux autres. Il est venu au pouvoir par la démocratie, à accepter des élections alors que les conditions n'étaient pas réunies. Est-il un colis encombrant pour la Côte d'Ivoire? Que nenni. Non, au contraire, un cadeau de pacification, un cadeau pour la paix et la réconciliation nationale. La Cour pénale internationale ne sera crédible à mes yeux que lorsqu'elle engagera des poursuites pour crimes contre l'humanité, l'ex-président Sarkozy ou les Bush père et fils. Non à la justice des vainqueurs, non à la Cour pénale, internationale, justice pour nègres. C'était là une réflexion de notre ami panafricaniste Alain Jules. Merci de votre fidélité sur Radio Canal Cœur dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
Silence. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est touchée. Aïe, aïe, aïe. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. 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 Tu sais bien que tôt ou tard, un jour nouveau se lèvera. L'arc-en-ciel reviendra. Maman, je prendrai soin de toi. Tu n'aurais dû jamais récolter la tempête.
Non.
Toi qui n'as jamais aimé le vent. Après la pluie, le beau temps. La paix pour tes enfants.
Ne tirez pas sur l'ambulance.
La Côte d'Ivoire est blessée.
Ne tirez pas sur l'ambulance.
La Côte d'Ivoire est touchée.
Le beau temps.
Peninsula Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, être bien informé, c'est être bien formé. VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, merci d'être toujours connecté sur le www.canalk.ch dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous l'annoncions en début de cette émission que nous discuterons, bien sûr, du procès de l'ancien premier, de l'ancien président Laurent Koudou Gbagbo. Cette audience qui se tient cette semaine à la Haye, à la Cour pénale internationale. Nos invités sont déjà en ligne, en direct depuis Paris. Il s'agit de Maître François Epoma, qui fait partie du collège des avocats de Laurent Koudou Gbagbo. Également, Maître François Epoma soutient le président, l'ancien président Laurent Gbagbo. Nous avons également en direct depuis Paris notre ami panafricaniste Alain Jules, journaliste blogueur. Nous allons prendre en premier Maître Epoma, Maître François Epoma. Bonsoir.
Bonjour Sylvain Amos.
Merci d'accepter notre invitation dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Donc Maître François Epoma, l'audience de confirmation des charges retenues contre Laurent Gbagbo s'est tenue cette semaine et ce jusqu'au 28 février. Hein. Vous avez assisté au premier jour de cette audience à La Haye. Nous sommes informés également que près de 500 panafricains et ivoiriens qui soutiennent Laurent Gbagbo se sont mobilisés devant la Cour pénale internationale. C'est quand même la première fois qu'une telle mobilisation panafricaine se fait à la CPI pour soutenir et demander quand même la libération d'un chef d'État africain, hein, Maître Epoma.
Alors, je voulais vous remercier et remercier les auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Effectivement, donc, depuis le 19 février, l'audience de confirmation des charges contre le président Laurent Gbagbo, cette audience a commencé. C'était donc aux environs de 14h30. Alors, il y avait effectivement une forte mobilisation des Africains de la diaspora, ceux qui sont en Europe particulièrement. Il y a eu plusieurs cars, plusieurs bus qui ont déposé des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des vieux, qui étaient venus nombreux soutenir donc le président Laurent Gbagbo. C'était la première fois que, effectivement, à La Haye, qu'on sente une mobilisation pareille devant quelqu'un qui est accusé devant cette juridiction internationale.
Justement, Alain Jules, journaliste blogueur, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir Fenêtre sur l'Afrique, bonsoir à tous les Africains et à tous les auditeurs de Canal K.
Merci beaucoup Alain Jules d'être toujours à nos côtés pour nous informer sur l'actualité panafricaine-africaine. Alors Alain Jules, rapidement un mot sur la mobilisation panafricaine pour soutenir et demander la libération de Laurent Gbagbo.
Ben écoutez, elle est sans précédent. Je veux dire que tout à l'heure Maître Epoma le précisait, on n'a jamais vu ça. Il est vrai que moi j'ai toujours des réserves par rapport à ce qui se passe à la CPI, parce que c'est un tribunal où on juge essentiellement des dignitaires noirs, malheureusement. Mais franchement, je crois que au-delà de tout ça, on a très bien vu que Laurent Gbagbo n'a pas sa place à la CPI. Ce n'est pas possible. Et quand on voit autant de mobilisations depuis pratiquement 2 ans en France, c'est la même mobilisation. On comprend tout de suite que, franchement, si on veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire, ce monsieur doit être renvoyé chez lui. Là, comme ça, il faut qu'il puisse être jugé chez lui. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire.
Bien sûr. De toute façon, tout au long de ce débat, on va en parler. Maître Epoma, et pensez-vous qu'il est de bon aloi que Laurent Gbagbo soit jugé à La Haye? Et non dans son pays, la Côte d'Ivoire. Hein. Les avocats de Laurent Gbagbo estiment que la Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un procès politique, Maître François Epoma.
Oui, vous posez là une question intéressante, dans la mesure où on a bien vu, pour ceux qui ont suivi l'intervention du professeur Jacob qui a pris la parole en premier pour essayer de présenter ce qu'ils avaient appelé leur requête en irrécevabilité, il avait bien expliqué notamment, justifiant du fait que cette requête ne devait pas être recevable, que la Cour ne devait pas statuer sur la question, notamment les charges, qu'ils avaient, que le procureur avait décidé contre le président Laurent Gbagbo, il avait évoqué un aspect important, celui de savoir si le président Gbagbo pouvait être jugé dans son pays ou à La Haye. La réponse est simple. Gbagbo a été inculpé en Côte d'Ivoire pour les mêmes raisons que la CPI. La CPI ne peut pas être une juridiction à laquelle on s'adresse tout de suite. Elle n'intervient que lorsque l'État qui veut envoyer ses ressortissants là-bas n'a pas les moyens, n'a pas les compétences, ne peut pas juger la personne. Or, il s'avère que Gbagbo est poursuivi parce qu'il est co-auteur indirect d'un certain nombre d'actes. Tous les autres co-auteurs sont détenus, maintenus, privés de liberté en Côte d'Ivoire et sont poursuivis devant les juridictions ivoiriennes. Il se pose alors la question de savoir, est-ce qu'il faut juger Gbagbo seul à La Haye et les autres à Abidjan? Deuxième chose, c'est la question de la connexité qu'avait soulevé le professeur Jacob. La même procédure étant pendante devant les juridictions ivoiriennes, la Cour pénale peut-elle encore statuer sur la question de Gbagbo? Non, ce n'est plus possible. Donc, en ce moment-là, il faut décider d'une seule juridiction compétente pour statuer sur la situation du président Laurent Gbagbo.
Justement.
Alors, faut-il le juger en Côte d'Ivoire? C'est une question intéressante. Et tout à l'heure, je suivais mon ami...
Ça, c'est la grande question,
ouais. Benedia qui disait que c'est sans précédent. Effectivement, Gbagbo, c'est un homme populaire. Il y a une règle en démocratie. C'est quand on est populaire qu'on gagne, qu'on est majoritaire. C'est ce que ça veut dire, ça. Les gens ont simplement peur que Gbagbo, aujourd'hui, à Abidjan, il serait l'homme le plus populaire, comme il a toujours été. Et s'il est rentré sur place, les autorités sur place ne pourront pas. S'ils l'ont envoyé à La Haye, c'est parce qu'ils ont démissionné. C'est parce qu'ils ne se sentent pas compétents. Parce qu'ils savent que leur justice n'est pas en mesure de rendre un procès équitable à ce monsieur qui n'a eu pour seul tort que de défendre son pays et les intérêts de ses citoyens.
Mmh. Nous allons demander l'avis également de Alain Jules, le panafricaniste depuis Paris. Alors Alain Jules, la défense de Gbagbo dénonce un procès politique contre Laurent Gbagbo, hein, et au nom de la réconciliation en Côte d'Ivoire, les avocats exhortent également la CPI à faire la lumière sur tous les crimes commis en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002, début de la rébellion. Quelle est votre opinion là-dessus, Alain Jules?
Je suis tout à fait d'accord avec eux. Comment voulez-vous que Laurent Gbagbo soit accusé d'être co-auteur? On dit co-auteur. Alors, à partir du moment où il est co-auteur, où sont les autres? Pourquoi on ne voit personne d'autre à la CPI par rapport à la crise ivoirienne? Et puis la crise ivoirienne, il ne faut pas remonter à l'élection présidentielle de 2010. Il faut repartir en 2002. Pourquoi tous ces gens-là, qui sont au pouvoir aujourd'hui, n'ont pas de convocation au niveau de la CPI. Il y a quand même des choses incroyables qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Alors, si on me dit que oui, voilà, il y a eu prescription. À partir du moment où il y a eu prescription, il y a eu prescription simplement pour qu'il y ait la paix. Alors, pourquoi on ne ferait pas la même chose? Parce que c'est Laurent Gbagbo, il ne faut pas l'oublier, qui accepte, qui tend la main à ces gens-là. Qui tend la main à ces gens-là, on ne peut pas oublier Marcoussi. On sait que c'est une mascarade. Mais ces gens-là, ils arrivent au pouvoir, et puis finalement, ils prennent le pouvoir de la manière la plus cavalière qui soit. Je n'en doute pas une seule seconde, malgré mes positions passées. À partir de là, si ces gens-là ne font pas à leur tour, ne tendent pas la main à leur tour pour apporter la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera en champ de ruines, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Je crois sincèrement que on arrive à une espèce de déni de la réalité. Et c'est très grave. C'est ça que je peux dire par rapport à Laurent Gbagbo qui est jugé à la CPI. Il faut vraiment que tout le monde soit jugé. Là, au moins, ce sera équitable. Pas une seule personne. Il y a un problème. Donc voilà.
Justement. Maître Emmanuel Altit et Maître Pouma, ça c'est à vous que je pose cette question. Maître Emmanuel Altit de la Défense affirmait le deuxième jour de cette audience que le procureur avait promis de poursuivre les deux camps en Côte d'Ivoire. Hein. C'est ce que soulevait également Alain Jules. Hein. Mais pourtant, seul Laurent Gbagbo est à la haie. C'est une interrogation posée à l'accusation qui n'a pas pourtant apporté beaucoup de réponses sur ce cas. Alors comment peut-on expliquer l'absence du camp du président Alassane Ouattara, Maître François Epoma?
Merci beaucoup. Alors je remercie notre ami Gilles pour... Ce tableau, hein, une sorte de panorama comme ça de l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé du 19 septembre 2002. Vous savez, le camp Ouattara et la Cour pénale cherchent encore, ils cherchent des victimes. Mais depuis 2002, nous avons des noms comme Bogadoudou. Vous voyez, ça saute. On ne cherche pas loin. On l'a. Parce qu'on sait qu'elle a été exécutée. Ce ministre de l'Intérieur qui était encore en fonction, il a été exécuté par les barbares venus on ne sait d'où. On a Désiré Tagro qui a été abattu devant tout le monde lors de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Un autre ministre de l'Intérieur, pour ne citer que ces deux autorités. Vous voyez? Alors, si aujourd'hui la Cour pénale peut se permettre d'interpeller Soro qui est reconnu comme étant un chef de la milice, 2002, il était le chef des forces nouvelles, un PIGO, un PCI, vous vous souvenez de ces noms-là? C'était des groupuscules, c'était des milices armées qui occupaient Boaké depuis un certain temps, voilà, qui sont arrivés finalement à Abidjan aujourd'hui et qui sont devenus les FRC. En dehors de ça, vous avez les Fofiers, les Tiofosé, vous avez les Zakarias, qui sont des chefs rebelles, que je crois entre la fin du mois de mars et début avril, que Ouattara avait déjà il avait pris un décret avant qu'il ne devienne président finalement, il avait pris un décret les reconnaissant comme étant les forces faisant partie des forces armées, des forces militaires ivoiriennes. Et ce sont les mêmes qui ont perpétré les actes, même après, hein, on parle souvent des actes de Diokwe, et c'est les mêmes. Alors aujourd'hui la question elle est bien posée. Les deux camps, il n'y a pas de justice, puisque les mêmes ont été poursuivis pour les mêmes exactions, et ceux-là sont encore à Abidjan aujourd'hui, et c'est ceux-là qui sont au pouvoir. Donc la Cour pénale et la communauté internationale, s'ils voulaient donner un avenir, une crédibilité à cette Cour, je pense qu'ils auraient dû penser à ramener en même temps les autres qui sont accusés aussi pour les mêmes actes aujourd'hui devant la Cour pénale.
Justement.
Le problème est simple. Ce procès est purement politique. Et cette juridiction à la Cour pénale, je l'ai dit lors de précédentes émissions, vous ne verrez jamais les chefs de guerre des États occidentaux devant cette Cour. Elle a été faite. Vous savez, la déportation, c'est pas une nouveauté pour les occidentaux, c'est une pratique qui remonte à des siècles. La plupart des dirigeants africains qui s'opposaient et qui voulaient réclamer une certaine indépendance, des velléités de souveraineté, ont été déportés. J'ai encore le souvenir d'un roi marocain qui a été déporté à Madagascar. Je peux en citer comme ça plusieurs. Parce que celui-là, il ne servait pas ou ne plaisait pas à la France de l'époque. Mais il faut que les Africains comprennent une fois pour toutes. Il nous faut des institutions fortes. Il nous faut des lois fortes et des États forts.
Justement, on va revenir là-dessus. Et je reviens encore sur cette Cour qui n'a pas pu convoquer l'autre camp, et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup d'Africains. Alain Jules, il est incontestable que dans la crise ivoirienne, il y a aussi effectivement la rébellion de Guillaume Soro et sa troupe qui ont commis aussi des exactions en Côte d'Ivoire. Alors comment explique-t-on que Gbagbo soit en prison et Soro pas inquiété par la haine? Et encore moins les partisans de l'actuel président Ouattara aussi, hein, Alain Jules.
Ben, tout est dit. C'est-à-dire que c'est tellement flagrant, c'est tellement criard, qu'on voit, tout le monde voit. Je crois que là-dessus, les choses sont tellement simples. Ils sont, on va dire, ces gens-là sont du bon côté, entre guillemets. À partir du moment où la soi-disant communauté internationale vous considère comme une personne faisant partie de leurs idéaux, de leur idéal, de leur vision sociétale, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez être un dictateur, vous pouvez tuer autant de vos concitoyens comme vous voulez, rien ne se passera. En revanche, il suffit que vous soyez un peu réticent, je dis bien un peu, juste un peu réticent, par rapport à des accords, par exemple, de coopération financière, parce que il ne vous a pas échappé que le président de Guinée équatoriale, Obiang-Nguema, qui a vu récemment en France son fils Théodorin poursuivi pour bien mal acquis. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que les gens ne savent pas ce qui s'est passé réellement. Ce qui s'est passé, c'est que ce président a osé demander que la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et la Banque de France, qu'on puisse revenir sur les accords financiers entre la Banque française et les banques de la sous-région CEMAC. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où il a remis en cause ces accords-là, parce qu'il faut le savoir, il y a 50% de tous les budgets de ces pays-là, je suppose que c'est le même cas en Afrique de l'Ouest, qui sont bloqués au niveau du Trésor français, au niveau de la Banque de France. Pourquoi? Au nom de quoi? Ça veut dire quoi? Les Africains n'arrivent même pas à jouir de leur propre argent. Donc, dès que le monsieur a voulu remettre ça en cause, Obiang-Nguema Mbazogo, le président de la Guinée équatoriale, dans la foulée, les ONG, on ne sait pas d'où sortaient ces ONG, inconnus au bataillon, il y a Sherpa et je ne sais pas une autre ONG, qui ont directement diligenté une enquête, soi-disant, et qui sont allés devant les tribunaux français porter plainte contre le fils Obiang-Nguema pour bien mal acquis en France. Mais le problème, c'est que c'est une grosse escroquerie. Où iront ces biens-là? Quand on a saisi ces biens, des voitures de luxe, enfin, je ne le défends pas, bien évidemment, des maisons, etc., des villas, quand on revend tous ces biens aux enchères, vous croyez que cet argent-là rentre à la Guinée équatoriale? Absolument pas. Et les qui auront ces gros bolides-là en France? Ce sont les Français. Donc, il y a une escroquerie chaque fois qu'un dirigeant africain est un peu... enfin, et regardons par rapport à son peuple. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a une grande escroquerie par rapport à ça. Donc, logiquement, les autres, qui ont aussi commis des exactions depuis 2002, mais puisqu'ils font la volonté de la France, ils font la volonté des États-Unis, forcément, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent.
Donc, vous pensez que c'est la France qui est derrière tout ces manigances?
Exactement, exactement. Exactement.
Merci Alain Jules de vos développements sur l'audience qui se tient depuis près de une semaine déjà à la Cour pénale internationale, l'audience de l'ancien président Laurent Koudjou-Gbagbo. Maître Epouma, François Epouma, merci également d'être avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique et de débattre avec nous. La défense accuse la procureure de la Cour pénale internationale de ne pas avoir suffisamment enquêté et de s'être contentée de valider une version de l'histoire fournie par Alassane Ouattara. La défense a continué sa plaidoirie en affirmant que pour preuve, les vidéos de la marche sur la radio-télévision ivoirienne montrent qu'il y avait également des combattants pro-Ouattara armés parmi les manifestants. Et finalement, des questions sur la crédibilité à donner à la CPI de Fatuma Bemba se posent. Votre réaction, maître François Epouma?
Oui, vous savez, la question de la preuve s'est posée depuis le début de ce procès. Malheureusement, la Cour et le procureur n'a pas fait le travail qu'il aurait pu faire depuis plusieurs mois. Je crois que la défense a bien montré les insuffisances de cette enquête. Tout d'abord, vous remarquerez que la France est présente en Côte d'Ivoire bien avant les indépendances. C'est ce que disait la défense la dernière fois sur le plan politique, économique, militaire. La plupart des entreprises qui y sont installées, ce sont des entreprises d'ici. Alors, comment la Cour, notamment le procureur, comment peut-il fournir des éléments, des preuves sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sans en demander, sans poser la question, sans se renseigner, sans s'appuyer sur ce que la France aurait pu lui donner? les FRC d'aujourd'hui n'avaient aucun moyen d'apporter les preuves à la Cour. Donc il aurait pu s'appuyer sur la France en général et sur l'armée française pour avoir des preuves et les produire. Pourquoi la Cour ne l'a pas fait? Pourquoi le procureur ne l'a pas fait? En outre, à partir de 2004, il y a l'ONUSI qui s'est installée en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les éléments fournis par cette institution onusienne? Donc, comme disait M. Gilles tout à l'heure, il s'agit là de soutenir quelqu'un qu'on a adoubé, quelqu'un qu'on a accepté, quelqu'un qu'on a copté. Un chef d'État qu'on a fabriqué, qu'on a mis dans un avion, on va l'installer. Des groupes de force, ils l'ont installé. Et il faut trouver tous les éléments pour corroborer, pour appuyer, pour soutenir ce qu'ils ont décidé de faire. Voilà, c'est ça la réalité de ce procès. Il n'y a pas de preuve. Nous savons comment ont été recrutées les personnes, ce qu'on appelle des victimes ou les gens qui ont témoigné. Nous savons comment ça a été fait. Parce que les mêmes personnes commencent à parler. Nous avons vu des images. Ils ont même pris des photos du Kenya, croyant que c'était des photos de la Côte d'Ivoire. Nous avons même vu des femmes d'Abobo, soi-disant les femmes d'Abobo, qu'on a filmées, et en leur disant, bon, vous restez comme étant mortes. Mais malheureusement pour eux, comme c'est des gens qui ne maîtrisaient pas la mise en scène, finalement, il y a une des dames qui s'est levée et on lui dira, non, ne vous levez pas, madame, c'est pas encore fini. Nous avons toutes ces images-là. Nous les avons. Nous les avons. Et vous avez en face de vous certains magistrats, y compris dans l'équipe du procureur, qui n'ont aucune connaissance de la Côte d'Ivoire. Ni de la culture même dans ce pays. J'ai vu celle qui défend les victimes, la représentante des victimes, dire que si dans l'une des chansons de campagne du président Gbagbo, on parlait de maïs, parce que le maïs est cultivé au nord de la Côte d'Ivoire. Ben, c'est une aberration. Le maïs est cultivé dans tout ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on trouve le maïs. Voilà, voilà un peu l'image du procès, parce que quelqu'un a acheté le maïs, ça veut dire qu'il se moque des gens du nord. Voilà,
justement.
C'est un peu ça.
Alain Jules, est-ce que vous êtes d'avis avec la défense de Laurent Gbagbo qui estime que la CPI n'a pas suffisamment enquêté sur les crimes post-électoraux en Côte d'Ivoire?
Mais forcément, il y a un tel vide dans le dossier de Ben Souda, la procureure, c'est affligeant, c'est affligeant. Parce que, à partir du moment où tout à l'heure Maître évoquait le cas d'une dame qui parle de la fameuse chanson de campagne Maïs, ben, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand on dit Maïs, c'est bon, c'est comment, etc. Je connais un peu, je ne sais pas si vous connaissez la chanson. C'est une façon simplement de dire que le maïs, il est mou. Donc, en face, devant, il y a le maïs. Donc, nous allons en face, il y a du maïs en face, c'est tout. C'est-à-dire que c'est tellement con. Je n'ai jamais vu ça depuis, sincèrement, je ne suis pas juriste, certes, mais j'ai jamais vu comment on peut amener au tribunal un dossier aussi vide à partir du moment où il y a une guerre. Puisque, sincèrement, il y a eu une guerre. Des gens qui sont en face, ils ont des armes. Qu'on ne me dise pas que, dans le camp Gbagbo, c'est là où il y avait uniquement des armes et qu'en face, les gens étaient mains nues. Qu'est-ce qui s'est passé à Abobo? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que faisait l'autoproclamé général? Il n'attaquait pas les forces pro-Gbagbo? Il n'a pas tué les forces pro-Gbagbo? Donc, on sait très bien, comme il disait tout à l'heure maître, à partir du moment où la soi-disant communauté internationale a choisi son camp, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le monde aujourd'hui est régi par un rapport de force. C'est régi par un rapport de force, c'est-à-dire que vous avez beau crier, vous avez beau apporter les preuves que vous n'êtes impliqué dans rien, ils trouveront toujours quelque chose pour vous incriminer. Que fait Bush, la famille, père et fils, aujourd'hui libre au Texas, notre cher ex-président Nicolas Sarkozy, avec ce qu'il a fait, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais à partir du moment avant la Côte d'Ivoire, il est passé par la Libye. On sait ce qui s'est passé en Libye. En violant royalement toutes les règles internationales. Donc, on comprend tout de suite. Il y a le camp le plus fort. Et là, c'est une justice des vainqueurs. Point barre. Le reste, franchement, je vous avoue,
justement,
c'est de la littérature.
Merci.
C'est de la littérature.
Merci, merci Alain Jules. Maître François Epoma, j'espère que vous êtes toujours avec nous dans ce débat sur Fenêtre sur l'Afrique. Maître Epoma, effectivement, pour un observateur avisé de la vie politique africaine, il est quand même vrai que lors de la crise ivoirienne, des exactions ont été commises par les deux camps. Et Laurent Gbagbo, pour certains Africains, paie le prix de son entêtement à garder le pouvoir. En plus, les puissances occidentales ne voulaient pas d'une paix négociée en Côte d'Ivoire, selon toujours la Défense. Et devant cette situation, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo sera innocenté?
Alors, il faut quand même que je précise quelque chose. Laurent Gbagbo ne s'est jamais entêté. Quand il arrive au pouvoir en 2000, il aurait bien voulu faire comme tout temps politique. N'oubliez pas que quand on crée un parti politique, et le but, pour ceux qui ont fait sciences politiques, ils savent que le but d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et quand on arrive au pouvoir, on cherche à le conserver. Donc, on ne s'entête pas, on veut gagner. Voilà, comme un homme politique, il a toute sa vie, il était un homme politique, il veut rester au pouvoir, et il a toujours utilisé le discours, la force des mots, pour persuader, pour convaincre, pour s'installer au pouvoir. Il n'a jamais qu'il était opposant. Depuis qu'il était opposant, je voulais dire, il n'a jamais utilisé les armes pour accéder au pouvoir. Ça, il faut le corriger tout de suite, parce que les gens confondent le fait que quelqu'un souhaite se représenter pour un deuxième mandat. Sarkozy l'a fait ici. On n'a pas vu qu'il s'entêtait pour rester au pouvoir. Donc lui, il voulait juste un deuxième mandat, que la bande Ouattara n'a pas voulu, depuis 2002, lui laisser cette occasion-là. Et en 2010, il a présenté sa candidature comme tout le monde. L'expression pro-Gbagbo, ça ne s'applique pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chef d'État en place, il y avait le haut commandement militaire qui dépendait donc du gouvernement, et ce sont ceux-là qui ont combattu durant les événements qui ont suivi les élections. Il y a eu des pro-Ouattara, ça c'est différent. Et je vous rappelle quand même que les forces nouvelles étaient les amis de Ouattara bien avant les événements de décembre 2010. Ça a bien commencé depuis 2002, ils étaient déjà proches de Ouattara. Sauf que Ouattara, n'ayant pas le courage politique à l'époque d'affirmer, de montrer son vrai visage, il était obligé d'exposer le pauvre Soro. Donc je voulais d'abord revenir sur ces deux aspects-là. Ensuite, je vous dirais, je vous répondais franchement, que si on dit le droit, si la Cour pénale disait le droit, si c'est une juridiction qui a été créée pour dire le droit, je vous garantis qu'avec les éléments que le procureur nous a présentés, le président Gbagbo sortirait de là. Maintenant, s'il veut faire un truc politique, effectivement, on aura des difficultés. Mais nous croyons que la... Parce que même au niveau de l'organisation de la défense du président Gbagbo, la Cour ne pensait pas que les gens allaient s'entêter, que les gens allaient travailler, les gens allaient apporter des arguments de droit pour justifier qu'effectivement... Ce procès-là n'a pas lieu. Ils sont surpris par la mobilisation, par la manière dont les gens s'organisent au niveau de la défense, au niveau du soutien populaire, que ce soit en France, en Europe, dans le monde, y compris en Côte d'Ivoire. Les gens sont surpris de la mobilisation autour du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que nous croyons qu'à un certain moment, pour sa crédibilité et pour aussi permettre à la Cour d'avoir une espérance de vie assez importante, il est souhaitable que cette Cour-là dise le droit.
Justement, je pense que vous avez parfaitement raison. Vous avez bien décrit la situation. Merci, Maître François Epoma. Il a quand même rappelé que vous êtes avocat et vous connaissez bien ce qui se passe dans ce dossier Laurent Koudou Gbagbo. Alain Jules, les avocats de Laurent Gbagbo le présentent comme un bouc émissaire, hein? Et ces mêmes avocats estiment également que sa chute a été planifiée et organisée. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo sera blanchi dans cette affaire de crime contre l'humanité?
Écoutez, je ne suis pas devant, mais le problème c'est que à partir du moment où c'est un procès politique, il va être très 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 difficile pour qu'il soit blanchi. En revanche, si le droit est vraiment dit, je ne vois pas comment il peut rester à la CPI. Ce n'est pas possible. À partir du moment où il se retrouve seul, le seul qui est apparemment justiciable en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à partir de là, je ne vois pas très bien quels arguments à faire valoir la CPI pourra vraiment arriver à le condamner en disant dans le vide, sans apporter des preuves matérielles, des preuves factuelles sur lui, le donneur d'ordre, sur les gens qui sont soi-disant morts. Non, attendez, je crois que c'est une mascarade. Il faut le dire, c'est une mascarade, il n'y a rien d'autre derrière. Moi, quand je vois le dossier par rapport à ce que la procureure Ben Souda a mis au devant sur la face du monde, elle est même ridicule, parce qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Et je précise que c'était une guerre. À partir du moment où c'était une guerre, il y a un camp contre l'autre. Mais écoutez, les gens ne vont pas venir en face de vous avec une arme et puis vous allez simplement vous cacher. Donc je crois que si le président Ouattara voulait réellement la paix en Côte d'Ivoire, même s'il arrêtait Gbagbo en certain temps, le déportant à Korogo, etc., il fallait qu'il ramène Gbagbo à Abidjan, qu'ils se parlent tous les deux, pour que la paix soit là. Regardez la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de paix. Les FRCI sont attaqués tout le temps, et c'est vrai que c'est le hasard. On voit comment le parti de Gbagbo ne peut même pas, les jeunes du parti de Gbagbo ne peuvent même pas se réunir. Il y a un problème. Alors, c'est quoi la démocratie? Si on bâillonne le camp d'en face, il n'y a pas de démocratie. Donc, on voit très bien, quand on sait que des gens vont faire la guerre, les pays occidentaux vont faire la guerre en Afrique sous prétexte d'établir la démocratie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment une démocratie? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Une démocratie qui a des prisonniers politiques, c'est pas possible. Ce n'est pas une démocratie. Je regrette.
Merci.
Donc, voilà quoi. Donc,
merci Alain Jules.
C'est une mascarade.
Mmh. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat sur l'audience de l'ancien président Laurent Gbagbo à la Haye cette semaine. Maître Poma, merci d'être toujours avec nous. Une dernière question de l'arrestation de Laurent Gbagbo par la France de Nicolas Sarkozy à son transfert à la Haye. Alors que peuvent retenir effectivement les Africains de ces événements après plus de 52 ans d'indépendance, Maître François Poma?
Alors, ce qu'il faut que les Africains retiennent de tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai presque dit, hein, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est à nous seuls, Africains, de construire des États, de construire des constitutions, des lois que nous devrions respecter. Avoir un État fort, des textes assez forts, et des hommes capables de les interpréter, de les faire appliquer. Et ça, ça nous manque jusqu'à aujourd'hui. De créer des structures, des endroits, des moyens pour le règlement de nos conflits. On en a marre de... C'est pas de la sous-traitance. On nous impose un rythme, on nous impose une façon de faire qui ne correspond en rien à la réalité, qui ne correspond pas à ce que nous attendons. La démocratie s'applique en Occident. Uh-huh. Mais quand ils viennent sur nos territoires, ils ne viennent pas pour la démocratie. Ils viennent pour autre chose. Et ça, nous le savons. Vous savez que le président Atété a été évincé, a été chassé du pouvoir, alors qu'il était démocratiquement élu. Personne n'est venu à son chevet pour dire « bon, on va rétablir l'ordre constitutionnel ». Ils ont préféré mettre en place une terminologie que moi je ne considère pas en droit, président intérimaire. Vous voyez, l'actuel chef de l'État malien, on l'appelle président intérimaire. Et c'est lui qui aurait écrit à Hollande pour que ce dernier mobilise l'armée française pour libérer le Mali. En droit, ça ne s'applique pas. Nous voulons tous que les terroristes quittent ce territoire, mais le droit n'a pas été respecté sur la façon, sur la manière de conduire cette opération. Aucune légitimité, déjà, sur la demande de cet homme qui était un chef d'État intérimaire, et aucune légitimité de cette intervention parce qu'elle ne s'appuie sur aucune base juridique. Voilà, c'est des exemples qu'on peut multiplier.
Merci.
Notre ami Gilles parlait du cas de la Libye, on peut y revenir.
Merci.
Mais simplement, il faut que les gens comprennent que la Cour pénale n'a pas été mise en place pour les Africains, mais pour les intérêts des Occidentaux.
Merci beaucoup, Maître François Epoma. Je rappelle quand même à nos auditeurs que vous faites partie du collège d'avocats de Laurent Koudjou Gbagbo. Vous avez quand même participé également à la toute première audience à la Haye. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Effectivement, également, une dernière question à notre ami panafricaniste Alain Joule, journaliste blogueur. crise ivoirienne, crise libyenne, crise au Mali, eh bien, Alain Jules, la France est omniprésente sur tous les fronts. Hein. En bref, que peuvent retenir les Africains du transfert de Gbagbo à la AE?
Ben écoutez, je vais peut-être redire ce que Maître a dit tout à l'heure et retenir que nous sommes faibles, nous sommes très faibles, parce que il ne vous a pas échappé que les chefs d'État africains voulaient régler pacifiquement le conflit libyen. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit carrément que vous vous taisez. Donc on n'a pas de force qui peut effectivement arrêter certains conflits. Et je rappelle à plusieurs Africains qui n'ont pas compris le film, qu'en Libye, justement, c'était à Sirte, lors d'un sommet africain, Kadhafi avait pleuré. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il avait pleuré parce qu'il avait demandé aux chefs d'État africains, qui étaient tous réunis là, qu'il fallait à tout prix créer une armée commune africaine pour prévenir les conflits, etc. Si on l'avait écouté, mais bon, comme nos chefs d'État, ils ont peur de tout, ils ont peur même de leur ombre, ils n'ont pas bien réagi, c'est-à-dire que Kadhafi, le pauvre, il a pleuré, et puis 10 ans après, on a vu hein, ce qui s'est passé chez lui. Or, si on avait une force comme ça, vous croyez que l'OTAN allait chercher à venir faire sa loi en Libye, ou encore l'ONU en Côte d'Ivoire? C'est pas possible. Donc, comprenez qu'effectivement, il nous faut de vraies institutions. Je pensais, moi, bon, elle a le bénéfice du doute, hein, puisqu'elle vient d'arriver à la tête de l'UA, Madame Zuma. On espère voir une femme forte qui n'acceptera pas qu'on nous dicte ce que nous devons faire. C'est quand même notre continent, et par conséquent, il ne faudrait plus que ce soit les Français, par exemple le cas malien est terrible, où un intérimaire appelle la France et on exige qu'il fasse un courrier. On sait très bien qu'il ne l'a jamais fait. On lui dit, bon, fais un courrier, on va venir, c'est tout. Donc c'est dommage. Hein. Et on peut parler de l'exemple du Cameroun aujourd'hui, où des gendarmes français sont sur place, où les militaires français sont sur place. Je ne crois pas qu'ils aient demandé une autorisation quelconque, mais je ne crois pas qu'un militaire ivoirien peut venir ici si un ivoirien un problème ici en France, ou un militaire camerounais, ou un juge camerounais. Mais vous savez très bien comment ça se passait. Oui, on va enquêter pour qui faire en Côte d'Ivoire. Les juges français partent de Paris, ils arrivent à Abidjan. Non, c'est terrible. Mais nos juges ne peuvent pas le faire ici en France.
Merci.
Il y a tellement de cas où ce serait possible, malheureusement.
Bref, il faut que les Africains arrivent à prendre leurs responsabilités, à prendre leur destinée à main et ne pas laisser leur sort aux mains des Occidentaux. Merci infiniment à Maître François Epoma, à Alain Jules, journaliste blogueur, d'avoir participé à cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci et bonsoir.
TogoCity.com, IssiLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bien, nous sommes effectivement la voix des opprimés. Merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch, également sur nos radios partenaires Lavra, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne, et au Togo, légende FM. Merci, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat, mais bien avant de prendre congé de vous et d'entamer la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée à l'actualité politique au Togo, nous vous offrons deux ou trois morceaux culturel d'un groupe du Togo, hein, un groupe typiquement culturel. Nous vous offrons le groupe Gamma. c'était le groupe Gabin, un groupe purement traditionnel du Togo. Et là, vous avez écouté du grand, de la cascagnette, mélangé à du balafon. C'était vraiment magnifique. Ça retrouve la tradition africaine. Nous allons vous offrir encore une fois dans un instant un deuxième morceau de ce groupe Gabin. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, ce deuxième morceau du groupe Gabin est dédié à tous nos fidèles auditeurs auditrices de Radio Canal K, de Légende des Femmes et de Lavra, la voix de la résistance africaine. Dans 4 minutes, nous allons prendre congé de vous. Merci de votre fidélité. Et donc, nous allons reprendre la deuxième partie qui sera consacrée à l'actualité politique au Togo. Merci et excellente soirée à toutes et à tous.